Ivanhoé, chapitre 8. Au milieu de la cavalcade, le prince Jean s'arrêta subitement et, appelant près de lui le prieur de Jorvaux, il déclara que la grande affaire du jour avait été oubliée. « Nous avons négligé, messire prieur, de nommer la belle reine de l'amour et de la beauté, qui doit distribuer la palme avec sa blanche main. Quant à moi, je suis tolérant dans mes idées, et je veux bien donner ma voix à Rebecca aux yeux noirs. » « Sainte Vierge !» répondit le prieur, levant les yeux avec horreur. « Une juive ? Nous mériterions d'être lapidés et chassés de la lice, et je ne suis pas encore assez vieux pour faire de moi un martyr. En outre, je jure par mon saint patron que ses charmes sont bien inférieurs à ceux de la belle Saxonne Rowena. » « Saxon ou juif ? » répondit le prince. « Chien ou porc, peu m'importe. Nommez Rebecca, vous dis-je, ne fût-ce que pour mortifier ces manants saxons. » Mais à ces mots, un murmure s'éleva, même parmi son propre entourage. « Ceci dépasse la plaisanterie, monseigneur, » dit de Bracy. « Aucun chevalier ici ne mettra sa lance en arrêt si l'on tente une pareille insulte. » « C'est une insulte sans nécessité, » dit Waldemar Fitzurs, un des plus vieux et des plus puissants seigneurs de la suite de Jean. « Et si votre grâce osait la tenter, elle serait sûre de ruiner ses projets. » « Je vous ai pris à mon service, messire, » dit Jean, arrêtant brusquement son coursier, « pour être mon serviteur et non mon conseiller. » « Ceux qui suivent votre grâce dans les sentiers que vous parcourez, » dit Waldemar, lui parlant à voix basse, « acquièrent le droit d'être vos conseillers, car votre intérêt et votre salut ne sont pas plus mis en jeu que les leurs. » Au ton dont cela fut dit, Jean vit qu'il était nécessaire de céder. « Je ne voulais que plaisanter, » dit-il, « et vous vous retournez sur moi comme autant de couleuvres. « Nommez qui bon vous semble, au nom du diable, et soyez content. » « Non, non, » dit de Bracy, « que le trône de la belle souveraine reste vacant jusqu'à ce que le vainqueur soit nommé, et qu'il choisisse alors la dame qui devra l'occuper. Cela ajoutera une faveur de plus à son triomphe, et nos belles dames apprendront par là à apprécier l'amour des vaillants chevaliers qui peuvent les appeler à cet honneur. » « Si Brillant de Bois-Guilbert remporte le prix, » dit le prince, « je gage mon rosaire que je nomme la reine de l'amour et de la beauté. »« Bois-Guilbert, » répliqua de Bracy, « est une bonne lance, mais il y en a d'autres dans cette lice, messire prieur, qui ne craindraient pas de se rencontrer avec lui. »« Silence, messieurs, » dit Waldemar, « et que le prince prenne place sur son trône. » Les chevaliers et les spectateurs sont également impatients. Les heures s'écoulent, et il est urgent que les joutes commencent. Le prince Jean, bien qu'il ne fût pas encore roi, avait déjà trouvé en Waldemar Fitzurs tous les inconvénients d'un ministre favori, qui, lorsqu'il sert son souverain, le veut toujours servir selon ses idées. Cependant, le prince n'essaya pas même de résister, bien que son caractère fût précisément un de ceux qui se cramponnaient à des bagatelles. Et, s'asseyant sur son trône, entouré de serviteurs, il fit signe aux héros de proclamer les lois du tournoi, dont voici l'abrégé. 1. Les cinq tenants devaient répondre à tous les survenants. 2. Tout chevalier qui se présentait pour combattre pouvait, si bon lui semblait, choisir son adversaire parmi les tenants, en touchant son bouclier. S'il le faisait avec le bois de sa lance, la lutte d'adresse se faisait, comme on disait alors, à armes courtoises, c'est-à-dire avec des lances à l'extrémité desquelles un morceau de bois rond et plat était fixé, de manière qu'on ne courait aucun danger, si ce n'est celui résultant du choc des chevaux et des cavaliers. Mais si le bouclier était touché avec la pointe de la lance, on entendait par là que ce combat se ferait à outrance, c'est-à-dire que les chevaliers se battraient avec des armes tranchantes, comme dans une bataille réelle. 3. Quand les chevaliers tenants avaient accompli leur vœu en brisant chacun 5 lances, le prince devait nommer le vainqueur de la première journée du tournoi, lequel recevrait comme prix un cheval de guerre d'une grande beauté et d'une force sans égale. Et, en outre de cette récompense, on déclara qu'il aurait l'honneur insigne de nommer la reine des amours et de la beauté, par les mains de laquelle le prix serait délivré le jour suivant. 4. Il fut annoncé qu'il y aurait le second jour un tournoi général, auquel pouvaient prendre part tous les chevaliers présents qui voudraient gagner de la gloire et qui, partagés en 2 groupes de nombre égal, pourraient combattre courageusement, jusqu'au moment où le signal de cesser le combat serait donné par le prince Jean. La reine élue des amours et de la beauté devait alors ceindre le chevalier que le prince aurait jugé s'être le mieux conduit dans cette seconde journée, d'une couronne composée d'une mince plaque d'or découpée en forme de laurier. Cette seconde journée mettait un terme aux joutes et aux jeux d'adresse. Mais le troisième jour, le tir à l'arc, les combats de taureaux et autres divertissements plus spécialement destinés à l'amusement du peuple devaient avoir lieu. Par ces moyens, le prince Jean cherchait à poser les bases d'une popularité qui bientôt était détruite par quelque acte inconsidéré d'une agression capricieuse contre les coutumes vénérées ou contre les préjugés de ce peuple. La Lys offrait, en ce moment, un spectacle vraiment magnifique. Les galeries en amphithéâtre étaient encombrées par tout ce qu'il y avait de noble, de grand, de riche et de beau dans les contrées septentrionales et centrales de l'Angleterre. Et le contraste qu'on remarquait dans les divers costumes des spectateurs de haut rang rendait le coup d'œil aussi rayonnant que splendide. La partie la plus basse de l'enclos intérieur était peuplée de bons bourgeois et de yeomen à leur aise de la joyeuse Angleterre, qui faisaient avec leurs vêtements plus modestes l'effet d'une bordure foncée autour d'un cercle de brillantes broderies, destinée à leur donner plus de relief et d'éclat. Les héros terminèrent l'annonce de leur proclamation par le cri d'usage. « Largesse ! Largesse ! Galant chevalier !» Sur quoi, une pluie de pièces d'or et d'argent, jetées des galeries, tomba dans la Lys, car c'était un point d'honneur parmi la chevalerie de faire preuve de libéralité envers ceux que le siècle considérait à la fois comme les secrétaires et les historiens de sa gloire. La générosité des spectateurs fut acclamée par le cri habituel de « Amour aux dames, mort aux champions, honneur aux généraux, gloire aux braves !» À ces cris répondirent les applaudissements du peuple, et une troupe nombreuse de trompettes firent entendre des fanfares sur leurs instruments guerriers. Quand tous ces bruits eurent cessé, la bruyante cavalcade des héros sortit de la Lys, où il ne resta plus que les maréchaux du camp, qui, armés de pied en cap et à cheval, demeuraient immobiles aux deux extrémités du champ clos. Pendant ce temps, le terrain à l'extrémité nord de la Lys, bien que très vaste, se trouvait entièrement encombré de chevaliers qui brûlaient du désir de signaler leur adresse contre les tenants. Et, vu des galeries, cet espace offrait l'image d'une mer de panaches ondulants, entremêlés de casques étincelants et de longues lances, au bout desquelles on voyait souvent de petites banderoles de la largeur environ d'une main, et qui, agitées par la brise, se mêlaient aux ondulations des panaches et ajoutaient à la vivacité du spectacle. Enfin, on ouvrit les barrières, et 5 chevaliers désignés par le sort s'avancèrent dans l'arène. Un de ces champions précédait les 4 autres, chevauchant 2 à 2. Ils étaient tous splendidement armés, et mon autorité saxonne, le manuscrit de Wardour, rapporte en détail leurs devises, leurs couleurs et les broderies de leurs harnais. Il est inutile de nous étendre sur ce sujet. Pour emprunter quelques lignes à un auteur contemporain qui a écrit trop peu, nous dirons « Les chevaliers sont de la poussière, leurs brunes épées sont rouillées et leurs âmes sont avec les saints, nous l'espérons. Leurs écussons ont dépéri sur les murs de leur château, qui eux-mêmes ne sont plus qu'un amas de gazon et de ruines poudreuses. Les lieux où ils vivaient autrefois les ont oubliés. Plus d'une race, depuis la leur, s'est éteinte et est tombée dans l'oubli, dans les terres mêmes qu'ils possédaient, avec toute l'autorité, et des maîtres et des seigneurs féodaux. Donc, à quoi bon faire connaître aux lecteurs leurs noms ou leurs emblèmes fugitifs de leur rang comme guerriers ? Maintenant, sans se douter de l'oubli qui attendait leurs noms et leurs actions, les champions s'avançaient dans la lice, contenant leurs coursiers fougueux, les obligeant d'aller au pas et les faisant caracoler pour montrer en même temps la grâce et l'adresse de leurs cavaliers. Au moment où cette cavalcade entra dans la lice, les sons d'une musique barbare et sauvage se firent entendre derrière les tentes des chevaliers tenants où les musiciens étaient cachés. Cette musique avait une origine orientale, ayant été importée de la Terre Sainte, et le mélange des cymbales et des clochettes semblait en même temps souhaiter la bienvenue et porter le défi aux chevaliers, qui s'avançaient vers la plateforme où se dressaient les tentes des tenants. Puis, se séparant, chacun d'eux toucha de la hampe de sa lance le bouclier de l'adversaire avec lequel il désirait se mesurer. Le commun des spectateurs, ainsi que beaucoup de ceux d'une classe plus élevée, et même, dit-on, plusieurs d'entre les dames, furent un peu désappointés de ce que les champions avaient choisi les armes courtoises, car la même classe de personnes qui de nos jours applaudit avec le plus de frénésie les drames les plus sanglants s'intéressait à cette époque à un tournoi justement en proportion du danger que couraient les combattants. Ayant ainsi fait connaître leurs intentions pacifiques, les champions se retirèrent à l'extrémité de la lice où ils restèrent alignés, tandis que les tenants, sortant chacun de son pavillon, s'élancèrent en selle et, conduits par Brillant de Bois Guilbert, descendirent de la plateforme pour s'opposer individuellement aux chevaliers qui avaient touché leurs boucliers respectifs. Au bruit des fanfares et des carillons, ils s'élancèrent au plein galop les uns contre les autres, et telle était l'adresse supérieure ou la bonne fortune des tenants que ceux qui se trouvaient opposés à Bois Guilbert, à Malvoisin et à Front de Bœuf roulèrent sur le sol. L'adversaire de Grand Ménil, au lieu de diriger la pointe de sa lance sur la visière de son ennemi, la détourna tellement de la ligne qu'elle se brisa contre le corps de son antagoniste. Circonstance que l'on considérait comme plus disgracieuse que celle d'être complètement désarçonné, parce que ce dernier désastre pouvait être l'effet d'un accident, au lieu que l'autre annonçait de la maladresse et une grande ignorance de l'arme et du cheval. Le cinquième chevalier seul soutint l'honneur de son parti et courut honorablement avec le chevalier de Saint-Jean, sans avantage de part ni d'autre. Les cris de la multitude, ainsi que les acclamations des héros et le retentissement des trompettes, annoncèrent le triomphe des vainqueurs et la défaite des vaincus. Les premiers rentraient dans leur pavillon, et les derniers, se relevant le mieux qu'ils purent, quittèrent la lice, honteux et abattus, pour s'entendre avec les vainqueurs, touchant la rançon de leurs armes et de leurs chevaux, qui, selon les lois du tournoi, étaient acquis à leurs vainqueurs. Le cinquième chevalier seulement resta assez longtemps dans la lice pour être accueilli par les applaudissements des spectateurs, au bruit desquels il se retira, aggravant ainsi la honte de ses infortunés compagnons. Un pareil nombre de chevaliers entra en lice une deuxième et une troisième fois, et bien que les succès se balançassent, à la fin, l'avantage resta au tenant. Donc pas un ne perdit la selle, ni ne se détourna de son but. Malheur qui survint à un ou deux des adversaires dans chaque rencontre. Si bien que le courage de ceux qui leur étaient opposés paraissait considérablement diminué par ces succès non interrompus. Trois chevaliers seulement se présentèrent pour la quatrième rencontre, qui, évitant les boucliers de Bois Guilbert et de Front de Bœuf, se contentèrent de toucher ceux des trois autres chevaliers qui n'avaient pas fait preuve d'autant de force et d'adresse. Ce choix prudent ne fit pas changer le cours de la fortune. Les tenants restaient toujours victorieux. Un de leurs adversaires fut renversé, et les deux autres manquèrent l'atteinte, c'est-à-dire de frapper leur antagoniste au casque ou au bouclier d'une main ferme et forte, avec la lance en arrêt, de manière que la lance se brisa ou que l'adversaire fut renversé. Après cette quatrième rencontre, il y eut une pause considérable, et il ne paraissait pas probable que de nouveaux champions se présentassent pour continuer la joute. Les spectateurs murmurèrent, car parmi les tenants, Malvoisin et Front de Bœuf s'étaient rendus impopulaires par leur tyrannie, et les autres, à l'exception de Grandménil, étaient mal vus comme étrangers. Mais personne ne partagea ce sentiment de mécontentement général aussi vivement que Cédric le Saxon, qui voyait, dans chaque avantage remporté par les tenants normands, un nouveau triomphe sur l'honneur de l'Angleterre. Par malheur, son éducation l'avait laissé étranger aux exercices de la chevalerie, bien qu'avec les armes et ses ancêtres saxons, il se fût montré plus d'une fois un brave et courageux soldat. Il regarda avec anxiété Athelstan, qui était familier avec les exercices de son siècle, comme pour l'engager à tenter un effort personnel pour reconquérir la victoire qui passait dans les mains du Templier et de ses compagnons. Mais, malgré la bravoure de son cœur et la force de son corps, Athelstan avait des dispositions trop nonchalantes et trop peu ambitieuses pour faire l'effort que Cédric paraissait attendre de lui. « La fortune est contre l'Angleterre, monseigneur !» dit Cédric avec intention. « Ne vous sentez-vous pas excité à rompre une lance ?»« Je combattrai demain, » dit Athelstan. « Dans la mêlée, ce n'est pas la peine de m'armer aujourd'hui. » Deux choses déplurent à Cédric dans ce discours. Il contenait le mot normand « mêlée » pour exprimer un combat général, et il montrait de l'indifférence pour l'honneur de son pays. Mais ce discours avait été prononcé par Athelstan, et il le respectait si profondément qu'il ne voulut pas se permettre d'examiner de trop près les motifs de sa faiblesse. D'ailleurs, il n'eut pas le temps de faire d'autres réflexions, car Wamba lança son mot, faisant observer qu'il valait mieux, bien que ce ne fût pas beaucoup plus facile, être le meilleur homme entre 100 que le meilleur entre 2. Athelstan prit cette observation pour un compliment sérieux. Mais Cédric, qui comprenait mieux la malice du bouffon, lui lança un regard sévère et menaçant. Et il fut heureux peut-être pour Wamba que le temps et le lieu l'empêchassent de recevoir, malgré son emploi et son service, des marques plus sensibles du ressentiment de son maître. La suspension dans le tournoi se trouvait remplie par la voix des héros qui s'écriaient « Amour aux dames, brisez vos lances, montrez-vous, galant chevalier, car de beaux yeux contemplent vos hauts faits !» La musique des chevaliers tenants faisait aussi entendre de grands éclats, exprimant le triomphe et le défi, tandis que les manants semblaient regretter un jour de fête qui paraissait s'écouler sans divertissement. Parmi les seigneurs, de vieux chevaliers se plaignaient de la décadence de l'esprit guerrier. Ils citaient les triomphes de leur jeunesse. Mais ils reconnaissaient eux-mêmes que le pays ne fournissait plus de beauté aussi rayonnante que celle qui avait excité l'enthousiasme dans les joutes des temps passés. le prince Jean commençait de parler à sa suite des apprêts du banquet et de la nécessité d'adjuger le prix à Brillant de Bois-Guilbert, qui, avec une seule anse, avait renversé deux chevaliers et écarté un troisième. La musique sarrasine des chevaliers tenants venait d'achever une de ces longues et bruyantes fanfares qui avaient si souvent troublé le silence de la nuit, lorsqu'on entendit, vers l'extrémité septentrionale, le son d'une trompette isolée, respirant l'accent du défi. Tous les regards se tournèrent à l'instant vers le nouveau champion que ce bruit annonçait, et la barrière ne fut pas plus tôt ouverte qu'il pénétra dans la lice. Autant qu'on pouvait juger un homme entièrement enseveli dans une armure, le nouveau survenant dépassait à peine la taille moyenne et paraissait être plutôt svelte que robuste. Son armure d'acier était richement incrustée d'or, et la devise visible de son bouclier était un jeune chêne déraciné avec le mot espagnol « desdicado », qui signifie « déshérité ». Il montait un superbe cheval noir, et en traversant la lice, il salua gracieusement les dames en abaissant sa lance. L'adresse avec laquelle il maniait son coursier, et quelque chose d'une grâce juvénile qui perçait dans ses manières, lui gagnèrent la faveur du peuple. Sentiment que plusieurs manants exprimèrent en s'écriant « Touchez le bouclier de Ralph de Vipon ! Touchez le bouclier de l'hospitalier ! C'est lui qui est le moins solide sur sa selle ! C'est celui dont vous aurez le meilleur marché !» Mais le champion, s'avançant au milieu de ses insinuations bienveillantes, monta sur la plateforme par le chemin incliné qui y conduisait de la lice, et au grand étonnement de tous ceux qui étaient présents, poussant son cheval directement vers le pavillon central, frappa du fer de sa lance et fit résonner l'écu de Brillant de Bois-Guilbert. Tous demeurèrent étonnés de cette audace, mais personne ne le fut autant que le chevalier redoutable, autant défié au combat à outrance et qui s'attendait si peu à ce rude cartel qu'il se tenait avec insouciance à la porte de son pavillon. « Vous êtes-vous confessé, mon frère ? » dit le templier. « Avez-vous entendu la messe ce matin, que vous mettez si franchement votre vie en péril ? » ?»« Je suis mieux préparé à la mort que toi, » répondit le chevalier déshérité, car c'est sous ce nom que l'étranger avait été inscrit au livre du tournoi. « Prends ta place dans la lice, » dit Bois-Guilbert, « et regarde pour la dernière fois le soleil, car tu passeras la nuit prochaine au paradis. » « Grand merci de ta courtoisie, » répliqua le chevalier déshérité. « Et pour la reconnaître, je te conseille de prendre un cheval frais et une lance neuve, car sur mon honneur, tu auras besoin de l'une et de l'autre. » S'étant ainsi exprimé avec confiance, il fit descendre à reculons à son cheval la pente qu'il avait gravie et traversa la lice de la même manière jusqu'à ce qu'il eût atteint l'extrémité nord, où il se tint immobile, attendant son adversaire. Cette nouvelle preuve d'adresse en équitation lui valut les applaudissements de la multitude. Bien qu'irrité des conseils que lui avait donnés son adversaire, Brillant de Bois-Guilbert ne négligea pas ses avis, car son honneur était trop sérieusement intéressé pour lui faire négliger rien qui pût lui assurer la victoire sur cet audacieux. Il échangea son cheval contre un autre, frais et éprouvé, plein de force et de courage. Il prit une nouvelle lance de bois dur, de peur que la première n'eût été endommagée dans les précédentes rencontres qu'il avait soutenues. Enfin, il mit de côté son bouclier, légèrement faussé, et en reçut un autre des mains de ses écuyers. Son premier bouclier ne portait que la devise générale de son maître et représentait deux chevaliers montés sur le même cheval, emblème qui exprimait l'humilité et la pauvreté primitive des Templiers. qualité qu'ils avaient échangée depuis contre l'arrogance et la richesse, qui causèrent à la fin la suppression de l'ordre. Le nouveau bouclier de Bois-Guilbert représentait un corbeau en plein vol, tenant un crâne dans sa griffe et portant ces mots « Gare le corbeau ». Lorsque les deux adversaires se trouvèrent vis-à-vis l'un de l'autre, aux deux extrémités de la lice, l'attention du public fut tendue au plus haut degré. Peu d'entre eux prévoyaient la possibilité que la rencontre se terminât à l'avantage du chevalier déshérité. Cependant, son courage et sa galanterie lui avaient déjà gagné la bienveillance générale. À peine les trompettes eurent-elles donné le signal que les champions quittèrent leur poste avec la rapidité de l'éclair et se rencontrèrent au centre de la lice, dans un choc semblable à un coup de foudre. Leurs lances volèrent en éclats jusqu'au poignet, et il sembla à un moment que les deux chevaliers étaient à terre, car le choc avait obligé les deux coursiers à ployer sur le jarret. L'habileté des cavaliers les fit redresser au moyen de la bride et de l'éperon, et après s'être regardés mutuellement un instant avec des yeux qui semblaient lancer l'éclair à travers la grille de leur visière, chacun d'eux fit une demi-volte et se retira à l'extrémité de la lice, où il reçut une nouvelle lance de ses serviteurs. Un cri immense des spectateurs, le déploiement des écharpes et des mouchoirs qu'on agitait, et des acclamations unanimes témoignaient de l'intérêt que prenaient les spectateurs à cette rencontre, la plus égale et la mieux accomplie qui eût encore signalé cette journée. Mais, dès que les deux chevaliers eurent repris leur poste, la clameur des applaudissements fit place à un silence si profond qu'on eût dit que la foule craignait même de respirer. Une pause de quelques instants fut accordée, afin que les combattants et les chevaux puissent reprendre haleine. Ensuite, le prince Jean, avec son bâton, fit signe aux trompettes de sonner la charge. Les champions s'élancèrent de nouveau de leur poste et se rencontrèrent au centre de la lice avec la même rapidité, la même adresse, la même violence, mais non pas avec le même résultat que la première fois. Dans cette nouvelle rencontre, le templier ajusta le centre du bouclier de son ennemi et le frappa si juste et avec tant de force que sa lance vola en éclats et que le chevalier déshérité s'accula sur sa selle. De l'autre côté, cet adversaire avait, dès le commencement de sa carrière, dirigé sa lance sur le bouclier de Bois-Guilbert. Mais, changeant de but presque au moment du choc, il visa le casque. But plus difficile à atteindre, mais qui, lorsqu'on l'atteignait, rendait le coup plus irrésistible. Il frappa fort et bien le Normand à la visière, dont la pointe de sa lance accrocha la grille. Toutefois, et malgré ce désavantage, le templier soutint sa haute réputation, et, sans les courroies de sa selle qui se rompirent, il n'aurait peut-être pas été désarçonné. Il arriva cependant que selle, homme et cheval roulèrent à terre sous un nuage de poussière. Se débarrasser des étriers et de son cheval tombé fut pour le templier à peine l'affaire d'un instant, et, hors de lui à cause de sa disgrâce et des acclamations dont elle fut accueillie par les spectateurs, il tira son épée et la brandit en défiant son vainqueur. Le chevalier déshérité s'élança de son cheval et tira aussi son épée. Mais les maréchaux du camp poussèrent leurs chevaux entre eux et leur rappelèrent que les lois du tournoi ne permettaient pas, dans le cas présent, ce genre de combat. « Nous nous retrouverons, je l'espère, » dit le templier en lançant un regard courroucé à son adversaire, « et dans un endroit où il n'y aura personne pour nous séparer. » « Si nous ne nous revoyons pas, » dit le chevalier déshérité, « la faute n'en sera pas à moi. À pied ou à cheval, à la lance ou à la hache ou à l'épée, je suis également disposé à te faire raison. » D'autres paroles encore plus vives auraient été échangées si les maréchaux, croisant leurs lances entre eux, ne les eussent obligés de se séparer. Le chevalier déshérité revint à sa première place et Boisguibert rentra dans sa tente, où il resta pendant le reste de la journée dans l'agonie du désespoir. Sans descendre de cheval, le vainqueur demanda une coupe de vin et, baissant la visière de son casque, il annonça qu'il buvait à tous les vrais cœurs anglais et à la confusion des tyrans étrangers. Le gigantesque Front de Bœuf, revêtu d'une armure noire, fut le premier qui s'offrit pour la joute. Il portait sur un bouclier blanc la tête d'un taureau noir, presque effacé par les nombreuses rencontres qu'il avait soutenues, et sur lequel se lisait cette arrogante devise « Cave atsum ». Le chevalier déshérité obtint sur cet adversaire un avantage léger mais décisif. Les deux chevaliers brisèrent leurs lances également. Mais Front de Bœuf, qui avait quitté un étrier dans le choc, fut jugé comme ayant eu le désavantage. Dans sa troisième rencontre, contre Philippe de Malvoisin, l'étranger fut également heureux. Il frappa ce baron si vigoureusement au casque que les courroies se rompirent, et Malvoisin, qui serait tombé s'il n'eût pas perdu son casque, fut déclaré vaincu comme ses compagnons. Dans son quatrième combat, contre Grandménil, le chevalier déshérité fit preuve d'autant de courtoisie qu'il avait jusque-là déployé de courage et d'adresse. Le cheval de Grandménil, jeune et ardent, se dressa sur ses pieds de derrière et se cabra en fournissant sa carrière, de manière à détourner le coup de son cavalier. Et l'étranger, dédaignant de profiter de cet accident, leva sa lance, et, passant près de son adversaire sans le toucher, fit faire volte-face à son cheval et regagna sa place dans la lice, faisant offrir à son ennemi par un héros la chance d'un second combat. Grandménil refusa d'en profiter, s'avouant vaincu, autant par la courtoisie que par l'adresse de son adversaire. Ralph de Vipon vint terminer la liste des triomphes du vainqueur. Il fut lancé à terre avec une telle force que le sang jaillit de son nez et de sa bouche, et qu'on l'emporta, évanoui, dans sa tente. Les acclamations de plusieurs milliers de spectateurs saluèrent la décision unanime du prince et des maréchaux, annonçant que les honneurs de cette journée étaient dévolus au chevalier déshérité. Chapitre 9. Guillaume de Wiville et Étienne de Martival furent les premiers à offrir leurs compliments au vainqueur, le priant en même temps de laisser délasser son casque, ou du moins de lever sa visière, avant qu'ils le conduisissent devant le prince Jean, afin de recevoir de ses mains le prix du tournoi du jour. Le chevalier déshérité déclina leur prière avec toute la courtoisie chevaleresque possible, alléguant qu'il ne pouvait permettre en ce moment que l'on vît son visage, pour les raisons qu'il avait dites au héros au moment où il était entré en lice. Les maréchaux furent parfaitement satisfaits de cette réplique, car parmi les vœux fréquents et capricieux par lesquels les paladins avaient coutume de se lier pendant les jours de la chevalerie, il n'y en avait pas de plus commun que ceux par lesquels ils s'engageaient à garder l'incognito pour un certain temps, ou jusqu'à ce qu'ils eussent mis à fin une aventure quelconque. Les maréchaux n'insistèrent donc pas pour pénétrer le mystère dont voulait s'envelopper le chevalier déshérité. Mais, après avoir annoncé au prince Jean le désir qu'avait manifesté le vainqueur de rester inconnu, ils lui demandèrent la permission de le mener devant sa grâce pour recevoir la récompense due à sa valeur. La curiosité de Jean fut excitée par le mystère qu'observait l'étranger, et comme il était déjà mécontent du résultat du tournoi, dans lequel tous les tenants qu'il favorisait avaient été successivement défaits par un seul chevalier, il répondit orgueilleusement au maréchal. « Par l'auréole de Notre-Dame, ce pauvre chevalier me semble aussi déshérité de sa courtoisie que de ses terres, puisqu'il veut paraître devant nous sans découvrir son visage. « Soupçonnez-vous, mes seigneurs, dit-il en se tournant vers sa suite, quel peut être ce preux qui se comporte si orgueilleusement ?»« Je ne saurais le deviner, répondit de Bracy, et je ne croyais point qu'il se trouvât entre les quatre mers qui entourent la Grande-Bretagne un champion capable de renverser 5 chevaliers dans un seul jour de joute. Par ma foi, je n'oublierai jamais la force avec laquelle il a secoué le vipon. Le pauvre hospitalier a été lancé hors de sa selle comme une pierre hors de la fronde. « Ne vous vantez pas de cela, dit un chevalier de Saint-Jean qui se trouvait là. Votre champion du temple n'a pas eu meilleure chance. J'ai vu votre brave lance Boisguibert faire 3 tours sur lui-même, saisissant à chaque tour le sable à pleine main. » Comme de Bracy était attaché au Templier, il eût désiré répondre, mais le prince Jean s'interposa. « Silence, messieurs, dit-il, quelle vaine discussion soulevez-vous là ? Le vainqueur attend toujours le bon plaisir de votre Altesse, reprit de Vivelle. « C'est notre plaisir, répondit Jean, qu'il attende ainsi jusqu'à ce que nous ayons appris s'il n'y a personne qui puisse au moins deviner son nom et sa qualité. Quand il y resterait jusqu'à la nuit tombante, il a fait un assez rude travail pour ne pas avoir froid. « Votre Altesse, dit Valdemar Fitzurse, ne rendra pas au vainqueur l'honneur qu'elle lui doit en l'obligeant d'attendre jusqu'à ce que nous ayons dit à votre Altesse ce que nous ne pouvons savoir. Mais du moins, je ne saurais former aucune conjecture, à moins que ce ne soit une des bonnes lances qui ont accompagné le roi Richard en Palestine et qui se traînent péniblement de la Terre Sainte vers leur foyer. « Serait-ce le comte de Salisbury ? » dit de Bracy. « C'est à peu près la même taille. »« C'est plutôt Sir Thomas de Melton, chevalier de Gisland, » reprit Fitzurse. « Salisbury a plus de corpulence. » Une voix s'éleva alors au milieu du cortège. Mais à qui appartenait-elle ? On ne sait. « N'est-ce pas peut-être le roi ? N'est-ce pas Richard Cœur de Lion lui-même ? Dieu ne plaise, dit le prince Jean, devenant en même temps et malgré lui aussi pâle que la mort, et en s'affaissant sur lui-même comme s'il lui venait d'être brûlé par la flamme d'un éclair. Valdemar, de Bracy, mes braves chevaliers et gentilshommes, souvenez-vous de vos promesses, et tenez ferme pour moi. Aucun danger ne vous menace, dit Valdemar Fitzurse. Connaissez-vous donc si peu les membres gigantesques du fils de votre père que vous pensiez qu'il puisse tenir dans le contour de l'armure que vous voyez là-bas ? De Ouiville et Martival, vous ferez bon service à votre prince en amenant le vainqueur au pied de son trône, pour mettre fin à une erreur qui a chassé tout le sang de ses joues. Regardez-le de plus près, continua-t-il. Votre Altesse verra qu'il s'en faut de 3 pouces qu'il n'ait la taille du roi Richard, et 2 fois autant qu'il n'ait la même largeur d'épaule. Le cheval qu'il monte n'aurait pu, pour une seule course, supporter le pesant fardeau du roi Richard. » Pendant qu'il parlait encore, les maréchaux avaient amené le chevalier déshérité jusqu'au pied des degrés qui montaient de la lice au trône du prince Jean. Toujours tourmenté de l'idée que son frère, tant offensé par lui et auquel il devait une si grande reconnaissance, venait d'apparaître dans son royaume. Les dissemblances indiquées par Fitzurse ne furent pas suffisantes pour bannir tout à fait les craintes du prince. Et tandis qu'avec un éloge court et embarrassé, il lui faisait livrer le cheval de bataille assigné comme prix, il tremblait de peur que de la visière baissée de ce fantôme couvert de mailles qu'il voyait devant lui, il ne sortit une réponse dans laquelle il reconnut les accents terribles et sonores de la voix de Richard Cœur de Lion. Mais le chevalier déshérité ne répliqua point un seul mot au compliment du prince, qu'il remercia seulement par une profonde révérence. Le coursier fut conduit dans la lice par deux palefreniers richement vêtus. L'animal lui-même était caparaçonné d'une splendide armure de guerre qui, cependant, aux yeux d'un meilleur juge, n'ajoutait rien au prix de la noble bête. Posant une main sur le pommeau de la selle, le chevalier déshérité sauta sur le dos du cheval sans faire usage de l'étrier. Et, brandissant hautement sa lance, il fit deux fois le tour de la lice, faisant ressortir toutes les qualités de sa monture avec l'adresse d'un parfait écuyer. Ce que l'on aurait pu soupçonner de vanité dans cette manœuvre fut écarté par la convenance qu'il y avait du part du vainqueur à faire briller aux yeux de l'assemblée la récompense dont il venait d'être honoré. Et le chevalier fut salué de nouveau par les acclamations de tous les spectateurs. Sur ces entrefaites, le prieur de Jorvaux avait murmuré à l'oreille du prince que le vainqueur, après avoir fait preuve de valeur, devait faire preuve de bon jugement, en choisissant, parmi les beautés qui illuminaient les galeries, une dame qui put occuper le trône de la reine de la beauté et des amours, et qui dut délivrer le jour suivant le prix du tournoi. Le prince, en conséquence, fit un signe avec son bâton, comme le chevalier passait devant lui à ce second tour de lice. Le chevalier se retourna vers le trône, et, abaissant sa lance, jusqu'à ce que la pointe fût à un pied de terre, il demeura immobile, comme s'il attendait les ordres du prince Jean. Et tout le monde admira l'adresse avec laquelle il réduisit à l'instant la fougue de son cheval, emporté par un mouvement violent et par une ardente excitation, à l'immobilité d'une statue équestre. « Chevalier déshérité, dit le prince Jean, puisque c'est là le seul titre qu'on peut vous donner, il est maintenant de votre devoir, aussi bien que dans vos privilèges, de désigner la noble dame qui, comme reine de la beauté et de l'amour, doit présider à la fête de demain. Si, en votre qualité d'étranger, il fallait, pour vous guider, le secours d'un autre jugement que le vôtre, nous ne pouvons que vous dire qu'Alicia, la fille de notre brave chevalier Valdemar Fitzurse, a depuis longtemps été reconnue à notre cour comme étant la plus noble et la plus belle. Néanmoins, il est de votre incontestable prérogative de conférer à la dame de votre préférence cette couronne, par le don de laquelle l'élection de la reine de demain sera formelle et complète. Levez votre lance. » Le chevalier obéit, et le prince Jean plaça sur la pointe de sa lance une couronne enrichie d'un cercle d'or et dont l'extrémité était relevée par des fers de flèches et des cœurs entremêlés, comme sur une couronne ducale les perles et les feuilles de fraisier. Dans cette insinuation qu'il laissait échapper à l'égard de la fille de Valdemar Fitzurse, Jean avait plus d'un motif, dont chacun était inspiré par un esprit étrange, composé d'insouciance et de présomption, d'astuce et de bas artifices. Il cherchait à bannir de la pensée des chevaliers qui l'entouraient sa plaisanterie indécente et inacceptable relativement à la juive Rebecca. Il cherchait aussi à se concilier Valdemar, le père d'Alicia, pour lequel il éprouvait une certaine crainte respectueuse, et qui, plusieurs fois pendant la journée, s'était montré mécontent de ce qui se passait. Il avait d'ailleurs le désir de s'insinuer dans les bonnes grâces de la dame, car Jean était pour le moins aussi licencieux dans ses plaisirs qu'effréné dans son ambition. Mais, outre toutes ces raisons, il voulait soulever contre le chevalier déshérité, pour lequel il éprouvait déjà une insurmontable aversion, un puissant ennemi dans la personne de Valdemar Fitzurse, lequel, pensa-t-il, ressentirait hautement l'injustice faite à sa fille dans le cas où le vainqueur ferait un autre choix, ce qui n'était pas improbable. Ce fut ce qui arriva. Car le chevalier déshérité passa tout près de la galerie attenante à celle du prince, où Lady Alicia était assise dans toute la splendeur d'une beauté triomphante. Et, s'avançant aussi lentement que jusqu'alors il avait rapidement couru autour de la lice, il parut exercer son droit d'examiner le grand nombre de charmants visages qui ornaient ce cercle resplendissant. C'était une chose curieuse à voir que la coquetterie des jeunes femmes qui soutenaient cet examen. Pendant le temps de sa durée, les unes rougissaient, les autres se donnaient des airs d'orgueil et de dignité, d'autres encore regardaient droit devant elles et tentaient de paraître ignorantes de ce qui se passait. Quelques-unes reculèrent, alarmées, ce qui peut-être était affecté, et d'autres firent de leur mieux pour ne pas sourire, tandis que deux ou trois d'entre elles se mirent au contraire à rire aux éclats. Il y en eut aussi quelques-unes qui baissèrent leurs voiles pour cacher leur charme. Mais comme le manuscrit de Wardour prétend que celle-ci avait déjà eu 10 ans de règne comme beauté, on peut supposer qu'elles étaient satisfaites de la part qu'elles avaient eue à de pareilles vanités et qu'elles voulaient retirer leurs prétentions afin de donner toute chance aux beautés ravissantes du siècle. Enfin, le champion s'arrêta au-dessous du balcon sur lequel Lady Rowena était assise, et la curiosité des spectateurs fut portée au comble. Il est juste d'avouer que si la sympathie qu'inspiraient ses succès avait pu influencer le chevalier déshérité, la partie de la lice devant laquelle il passait méritait sa prédilection. Cédric le Saxon, transporté de joie à la vue de la défaite du Templier, et plus encore par la mésaventure de ses deux ennemis, Malvoisin et Front de Bœuf, avait, le corps penché hors du balcon, accompagné le vainqueur dans chacune de ses courses, non pas des yeux seulement, mais avec tout son corps et toute son âme. Lady Rowena avait de son côté suivi les événements de la journée avec une attention égale, mais sans trahir ouvertement un intérêt aussi intense. Il n'y avait pas jusqu'au nonchalant Athelstan qui, ayant un peu secoué son apathie, n'eût demandé un grand gobelet de vin épicé et ne l'eût bu à la santé du chevalier déshérité. Un autre groupe, placé sous la galerie occupée par le Saxon, avait montré tout autant d'intérêt pour le résultat de la journée. « Père Abraham, » dit Isaac d'York, quand la première course eut été achevée entre le Templier et le chevalier déshérité. « Avec quelle fureur il chevauche ce gentil et bon cheval, qui est venu de l'Afrique même. Il n'en a pas plus de souci que si c'était le poulain d'un âne sauvage. Et cette noble armure, qui a valu tant de sequins à Joseph Pereira, l'armurier de Milan, sans compter 70% de profit. Il en fait aussi peu de cas que s'il l'eût trouvé sur le grand chemin. S'il met en péril sa propre personne et ses membres, mon père, dit Rebecca, en soutenant une si terrible lutte, comment espérez-vous qu'il épargnera le cheval et l'armure ? Enfant, reprit Isaac un peu irrité, « tu ne sais ce que tu dis. Son cou et ses membres sont à lui, mais son cheval et son armure appartiennent à... « Oh, patriarche Jacob, qu'allais-je dire ? Néanmoins, c'est un brave jeune homme. Vois, Rebecca, regarde, il va encore livrer bataille aux Philistins. Prie, mon enfant, prie pour le salut du brave jeune homme et du cheval rapide et de la riche armure. » « Dieu de mes pères ! » s'écria-t-il de nouveau. « Il a vaincu. Le Philistin incirconcis est tombé sous sa lance, de même que Og, roi de Bazan, et Sion, roi des Ammonites, sont tombés sous le glaive de nos pères. Sûrement il prendra leur or et leur argent et leurs chevaux de bataille, ainsi que leurs armes d'airain et d'acier, comme sa proie et comme son butin. » La même inquiétude fut exprimée par le digne juif pendant toutes les courses qui furent accomplies, et il manqua rarement de risquer un calcul rapide touchant la valeur du cheval et de l'armure qui devenait la propriété du champion à chaque nouveau succès. Il y eut donc un très grand intérêt attaché au triomphe du chevalier déshérité par tous ceux qui occupaient la partie de la lice devant laquelle il passait maintenant. Soit par indécision, soit pour tout autre motif, le champion du jour demeura immobile pendant plus d'une minute, tandis que les yeux des spectateurs silencieux étaient rivés sur ses mouvements. Puis, graduellement et avec grâce, abaissant la pointe de sa lance, il déposa la couronne qu'elle soutenait au pied de la belle Rowena. Les fanfares retentirent sur le champ, tandis que les héros proclamaient Lady Rowena la reine de la beauté et des amours pour le jour suivant, menaçant de peines proportionnées au crime tous ceux qui désobéiraient à son autorité. Ensuite, ils répétèrent leur cri de largesse, auquel Cédric, dans l'exaltation de sa joie, répondit par une ample générosité à laquelle Athelstan, bien que d'une manière plus lente, ajouta un don non moins considérable. Il s'éleva quelques murmures parmi les demoiselles de race normande qui avaient aussi peu l'habitude de voir la préférence donnée à une beauté saxonne, qu'en avaient les seigneurs normands d'essuyer des défaites dans les jeux de la chevalerie, qu'eux-mêmes avaient établi. Mais ces bruits de dissentiment furent étouffés par les cris populaires de « Vive Lady Rowena, la bonne et légitime reine des amours et de la beauté !» et auxquels beaucoup de ceux qui se trouvaient dans l'arène inférieure ajoutèrent « Vive la princesse saxonne! Vive la race de l'immortel Alfred !» Toutefois, quelque malsonnante que fussent ces exclamations pour le prince et pour ceux qui l'entouraient, il se vit obligé de ratifier la nomination du vainqueur, et par conséquent, il quitta son trône en criant « À cheval !» Et montant sur son genet, accompagné de sa suite, il rentra dans la lice. Le prince s'arrêta un moment sous la galerie de Lady Alicia, à laquelle il fit ses compliments, disant en même temps à ceux qui l'entouraient « Par le ciel, messire, si les actions du chevalier, en fait d'armes, ont démontré qu'il a des membres et des tendons, son choix n'aura pas moins prouvé que ses yeux ne sont pas des plus clairvoyants. » Ce fut en cette occasion, comme pendant toute sa vie, le malheur de Jean de ne pas comprendre parfaitement l'esprit de ceux qu'il voulait concilier. Waldemar Fitzurse fut plutôt offensé que flatté d'entendre le prince exprimer aussi franchement son avis sur la façon légère dont sa fille avait été traitée. « Je ne connais pas de droit de chevalerie, dit-il, qui soit plus précieux et plus inaliénable que celui qui donne à chaque chevalier la liberté de choisir sa dame d'amour selon son propre jugement. Ma fille ne recherche les hommages de personne, et dans son caractère comme dans son rang, elle ne manquera jamais de recevoir la mesure entière de ce qui lui est dû. » Le prince Jean ne répondit pas, mais piquant son cheval, comme pour donner passage à sa mauvaise humeur, il fit bondir l'animal devant lui jusqu'à la galerie où Rowena était assise avec la couronne toujours à ses pieds. « Saignez, belle dame, dit-il, la marque de votre souveraineté, à laquelle personne ne fait vœu de rendre un plus sévère hommage que nous, Jean d'Anjou. Et s'il vous plaît aujourd'hui, avec votre tuteur et ami, d'honorer notre banquet au château d'Asby, nous apprendrons à connaître la souveraine au service de laquelle nous nous vouons demain. » Rowena garda le silence, et Cédric répondit pour elle en saxon. « Lady Rowena, dit-il, ne possède pas la langue dans laquelle il lui faudrait répondre à votre courtoisie et soutenir son rôle dans votre festin. Moi-même et le noble Athelstan de Koningsburg nous ne parlons que la langue et ne pratiquons que les manières de nos ancêtres. Nous déclinons donc avec reconnaissance l'invitation courtoise de votre Altesse au banquet. Demain, Lady Rowena prendra sur elle l'honorable charge à laquelle elle a été appelée par le libre choix du chevalier vainqueur, confirmé par les acclamations du peuple. Ce disant, Cédric ramassa la couronne et la plaça sur le front de Rowena, comme signe qu'elle acceptait l'autorité momentanée qu'on lui décernait. Que dit-il ? Demanda le prince Jean, affectant de ne pas comprendre la langue saxonne, dans laquelle toutefois il était très versé. Le sens du discours de Cédric lui fut répété en français. « C'est bien, dit-il. Demain, nous conduirons nous-mêmes cette silencieuse souveraine à sa place d'honneur. Vous, au moins, messire chevalier, dit-il, se tournant vers le vainqueur qui était resté près de la galerie, vous assisterez à notre banquet. » Mais, parlant pour la première fois d'une voix basse et saccadée, le chevalier s'excusa, donnant pour prétexte la fatigue et la nécessité de se préparer pour la rencontre du lendemain. « C'est bien, dit fièrement le prince. Bien que nous n'ayons pas l'habitude d'essuyer de pareils refus, nous tâcherons de digérer notre souper le mieux que nous pourrons, quoiqu'il ne soit honoré ni par la présence du plus heureux dans les armes, ni par celle de la reine de beauté qu'il a préférée. » En parlant ainsi, il se disposait à quitter la lice avec son brillant cortège, et, tournant la tête de son cheval dans cette intention, il donna le signal pour la dispersion des spectateurs. Cependant, avec la mémoire vindicative qui est le propre d'un orgueil offensé, surtout quand il est combiné avec un esprit inférieur dont il avait la conscience, Jean eut à peine fait trois pas que, se retournant de nouveau, il fixa un œil de féroce ressentiment sur le yeoman qui lui avait déplu dans la partie matinale de la journée et donna ses ordres aux hommes d'armes qui se tenaient près de lui. « Sur vos têtes, dit-il, ne permettez pas aux drôles de s'échapper. » Le yeoman soutint le regard courroucé du prince avec la même invariable fermeté qu'il avait montrée la première fois, disant avec un sourire « Je n'ai point l'intention de quitter Asby avant après-demain. Je veux voir comment les archers de Stafford et de Leicester lancent une flèche. Les forêts de Needwood et de Charmwood doivent produire de bons tireurs. » « Et moi ?» dit le prince Jean à ses serviteurs, sans répliquer directement. « Je veux voir comment il tire lui-même. » Et malheur à lui si son adresse ne sert pas d'excuse à son insolence. Il est bien temps, dit De Bracy, que l'outrecuidance de ces paysans soit réprimée par quelque exemple signalé. Waldemar Fitzurse, qui jugeait probablement que son patron ne prenait pas le chemin le plus court pour arriver à la popularité, haussa les épaules et garda le silence. Le prince Jean continua sa sortie de la lice et la dispersion de la multitude devint générale. Par divers chemins, selon les différents quartiers d'où il venait, et par groupes plus ou moins nombreux, on vit les spectateurs se retirer de la plaine. La partie la plus nombreuse s'écoula vers la ville d'Asby, où le plus grand nombre des personnages distingués avaient leur logement dans le château, et où d'autres avaient trouvé un logis dans la ville même. Au nombre de ces derniers étaient des chevaliers qui avaient déjà paru au tournoi ou qui se proposaient de combattre le jour suivant. Ils s'avançaient lentement le long de la route, devisant sur les événements du jour, au milieu des acclamations de la populace. Le même accueil fut fait au prince Jean, bien qu'il l'ait dû plutôt à la splendeur de son costume et de son cortège qu'à la popularité de son caractère. Une acclamation plus sincère et plus générale, et en même temps plus méritée, salua le vainqueur du jour, jusqu'à ce que, cherchant à se soustraire à l'attention de la foule, il accepta l'hospitalité d'un de ses pavillons aux extrémités de la lice, qui lui fut courtoisement offerte par les maréchaux du camp. Aussitôt qu'il se fut retiré sous sa tente, beaucoup de ceux qui étaient restés auprès des autres dans la lice pour entrevoir le chevalier et former des conjectures sur lui, se dispersèrent également. Le bruit et le tumulte qui accompagnent toujours un grand concours d'hommes rassemblés dans la même localité et qui ont été agités par les mêmes événements, furent maintenant remplacés par le bourdonnement éloigné des groupes divers qui se retiraient dans toutes les directions, et ce bourdonnement lui-même s'éteignit bientôt dans le silence. Nul autre ne se fit alors entendre, sauf les voix des domestiques, qui dépouillaient les galeries des coussins et des tapisseries afin de les mettre en sûreté pour la nuit, et se disputaient entre eux les restes de vin et les reliefs des repas que l'on avait servis aux spectateurs. Au-delà des bornes de la lice, plus d'une forge fut élevée, et ces forges commencèrent bientôt à luire à travers le crépuscule, annonçant le travail des armuriers, qui continuèrent pendant toute la nuit à réparer et à faire des changements dans les armures que l'on devait employer de nouveau le lendemain. Une forte garde d'hommes d'armes, relevée par intervalles et de 2 heures en 2 heures, fut placée autour de la reine et y resta jusqu'au lever du soleil.